Donc nous allons passer maintenant au second exposé qui va être fait par Jean-Marie Laine. Je crois qu'on n'a pas besoin de le présenter ici puisqu'il a été pendant très longtemps professeur au Collège de France et qu'il continue maintenant des recherches à l'Université de Strasbourg. Donc nous continuons dans les prix Nobel de chimie puisque vous savez que Jean-Marie Laine a eu le prix Nobel en 1987 qu'il a initié un champ nouveau de chimie supramoléculaire. Et donc, je pense qu'il va nous parler de l'importance de la résonance magnétique nucléaire en chimie et pour ses propres recherches. Donc, Jean-Marie, je te laisse.
Merci, Serge, aussi de m'avoir invité ici. La dernière fois que j'étais là, c'était quand j'ai fait ma leçon de clôture, il y a quelques années. Et bon, Anatole Abraham, je ne l'ai pas beaucoup connu, je dois dire. Je l'ai fréquenté pendant 4 ans, au début de mes années au Collège de France. Mais je l'avais fréquenté par son livre, bien avant. Et je voudrais donner quelques aspects de ce qui s'est passé au cours des années. Notamment, j'ai quand même fait 50 années de voyage dans le lit de la RMN, si je puis dire. Et le fameux bouquin « Les principes du magnétisme nucléaire », c'est un peu le début de ce dont je voudrais vous parler. On a entendu parler beaucoup de dynamique, effectivement, mais je vais aussi parler de dynamique moléculaire, mais avec des molécules beaucoup plus simples que celles que Kurt Buttrich vous a présentées. J'avais le bouquin, mais dans sa version française, qui donc a été publié en 1961, et c'était, du point de vue physique, la base. Pour les chimistes, c'était un autre livre, le Poppel-Schneider-Bernstein, qui était l'autre livre très important pour les chimistes et qui a servi, en fait, dans la pratique de la résonance magnétique nucléaire pour les chimistes, comme livre de base et de chevet, on peut dire. Les principes du magnétisme nucléaire n'étaient pas évidents quand on était chimiste. En fait, j'avais fait de la mécanique quantique à Harvard pendant que je travaillais sur la synthèse de la vitamine B12 avec Woodward. Et John Bolterswiller faisait un cours de mécanique quantique basé sur le Messia, qui était un bouquin qu'il faut aussi s'envoyer, c'est pas tout simple. Et donc c'est sur cette base, et ensuite sur la base principalement du livre d'Abraham, que j'ai appris mes bases de la RMN. La période héroïque, la RMN, la voilà. Vous voyez, en haut, l'appareillage était un peu fruste. Ça, ce sont les signaux, c'est un des spectres de l'éthanol obtenu initialement, qui est maintenant ce qui est montré là-dessus. Donc, il y a déjà des progrès de fait dans ce cas-là, mais il y en aura d'autres. Il se trouve que Guy Ruisson avait, à l'époque, réussi à obtenir pour l'Institut de chimie de Strasbourg le premier appareil utilisable par des chimistes facilement pour faire des analyses de structure de RMN du proton. C'était le fameux variant A60, qui a complètement révolutionné la façon dont on faisait de la chimie organique. Je sais que j'ai commencé ma thèse sans RMN. C'était affreux quand on y repense. Et ensuite, il m'avait chargé de cette machine qui nous a permis de faire beaucoup de progrès, et notamment dans différents domaines, qui sont les domaines que tous les chimistes pratiquent maintenant pour la résonance magnétique nucléaire, déterminer les structures moléculaires. Je vais parler un peu plus en détail de quelque chose qui est moins connu, mais qui est très important. Je trouve que les chimistes le négligent un peu trop. La RMN des noyaux quadrupolaires. Il y a la résonance quadrupolaire nucléaire. Tout ça, c'est dans l'Abraham. Des processus cinétiques dont je causerai un peu la dynamique moléculaire, des mouvements et de la chimie dynamique. Ma thèse, il se trouve qu'à l'époque, elle portait sur la résonance magnétique nucléaire des triterpènes, des produits naturels. Et c'était en quelque sorte aussi une formation, puisqu'il y avait aussi, à l'époque, la nécessité de faire une deuxième thèse sur un sujet imposé, qui, dans ce cas-là, était le sujet des couplages spin-spin nucléaires, qui était donc un thème très théorique. Voilà le type de spectre qu'on obtenait à l'époque. Je crois que ma thèse, je pourrais la faire en une semaine, à peu près, maintenant, ou 15 jours, avec l'appareillage actuel, comparé à ce qu'il y avait comme appareillage à l'époque. Le premier spectre qui nous a mis sur la voie des cryptants, c'était celui-ci, en 1968. et qui, comme vous le voyez, était un... On avait réalisé qu'à l'époque, on avait obtenu la première structure macrobicyclique qui nous a conduit ensuite au cryptant et à développer le domaine. Alors, un thème très important, à l'époque de la chimie organique dite physique, qui existe toujours, mais à l'époque, il s'agissait de savoir aussi comment bougent les molécules, et pas seulement comment elles bougent dans le milieu dans lequel elles se trouvent, mais aussi de façon intramoléculaire, donc à l'intérieur de la molécule. Et on peut utiliser comme sonde interne la différence en fréquence entre deux signaux de résonance magnétique nucléaire lorsque la fréquence d'échange entre les deux sites est faible par rapport à la distance des signaux, on obtient deux pics, et quand elle est rapide, un seul. Interpréter la forme des raies entre les deux extrêmes donne ensuite connaissance de la vitesse à laquelle s'échange et donc la vitesse du mouvement moléculaire, ce qui peut s'appliquer d'une part à ce que nous appelons les inversions de cycles, comme par exemple ce cyclohexane qui a un nitrogène en position dite équatoriale, un autre en position axiale. S'il s'inverse, celui qui était rouge passe axial, le bleu passe équatorial, et donc c'est ce cas-là où l'on passe d'un site à l'autre, et suivant la vitesse à laquelle cette molécule donc change de conformation d'une forme à l'autre, on peut donc déterminer cette vitesse. De même, on peut aussi essayer d'étudier, on peut étudier la façon dont dont le parapluie de la pyramide de l'azote, ici, s'inverse et passe de ce site-là à ce site-là. Ces études ont été poursuivies principalement par beaucoup de laboratoires dans les années 60, 70, 80, et à ce moment-là, elles étaient bien établies et l'intérêt s'est déplacé sur autre chose. Je voudrais dire un peu plus des noyaux quadrupolaires, parce que c'est quand même une base aussi des principes du magnétisme nucléaire. Et les noyaux quadrupolaires, de spin supérieur à 1,5, ont des propriétés que n'ont pas les autres et permettent d'atteindre des propriétés moléculaires que ne peuvent pas fournir, les noyaux dipolaires, comme le proton, qui est le plus étudié. Il se trouve que nous étions beaucoup intéressés à l'azote 14, et déjà avec Jean-Pierre Kinzinger en 1973, on avait donc beaucoup étudié l'azote 14. Je vais vous montrer quand même ce que l'azote 14 peut apporter à la chimie et qui est très peu exploité, malheureusement, je pense. Dans la formule, on a vu des formules plus longues auparavant, donc je me sens plus justifié à présenter des formules, n'est-ce pas ? Le temps de relaxation, c'est-à-dire l'échange entre les niveaux d'énergie nucléaire pour un noyau, dans le cas d'un noyau quadrupolaire, il se définit par un temps de relaxation dit quadrupolaire qui met en œuvre deux choses, une fonction d'interaction et des mouvements moléculaires. Cette fonction d'interaction dépend, donc c'est la fonction de le couplage quadrupolaire et les mouvements moléculaires, comme je viens de le dire. Il y a ici le moment quadrupolaire nucléaire, ça c'est une constante, donc bon, c'est déterminé par les physiciens. Mais il y a un autre terme qui s'appelle le gradient de champ, qui mesure la symétrie du champ électrique autour du noyau, ce qui est très important dans une molécule. Et si l'on tient compte de ces trois termes ici, on mesure la constante de quadrupolaire, donc le temps de relaxation quadrupolaire, on connaît par d'autres déterminations la constante de couplage, mais à partir de cela, on peut déterminer le gradient de champ. Et ce gradient de champ est très important, parce que si le champ est totalement symétrique autour du noyau en question, on a des propriétés très différentes, évidemment, et notamment, on peut voir des structures fines qui ne sont pas présentes autrement. Je vais vous donner un exemple. Cet produit, la triéthylamine, protonée, et évidemment l'azote est entouré, donc noyau quadrupolaire de spin 1, de trois carbones et un azote. Donc manifestement, c'est dissymétrique. Le résultat, c'est qu'on obtient un spectre que n'importe quel chimiste interprète pour, ici, un triplet pour le CH3, un quadruplet pour le CH2. Maintenant, vous passez à une structure complètement symétrique, qui est, ça a l'air d'être la même chose, ce n'est pas la même chose, 4 groupes éthyl, donc l'azote est lié à 4 carbones. Maintenant, la structure est totalement symétrique. Le résultat est qu'on observe maintenant le couplage entre l'azote 14 et le proton. un peu le genre de couplage dont Kurt Buttrich parlait auparavant, qui permet de transférer aussi l'information entre les différents spins. Ceci, au début, quand un collègue chimiste, quand je faisais ma thèse, lui aussi faisait sa thèse, il dit, bien, écoute, je m'attendrais à un spectre de ce genre-là, avec le fameux groupe éthyle, et mon produit, pourtant, j'ai beaucoup purifié, or, il a du pic en plus. Ben, ça vient du fait que l'azote 14 a un spin 1, et donc, il détriple tous les signaux. Mais cette possibilité de montrer ce détriplement des signaux donne une indication très importante sur le fait que l'entourage de l'azote est symétrique. Et on peut, en fonction du temps de relaxation, alors analyser ces formes de raies, je passe là-dessus, je ne vais pas aller dans les détails, quand le temps de relaxation est rapide, on découple, c'est-à-dire on ne voit pas le couplage entre les deux noyaux, et quand il est lent, on voit le couplage entre les deux noyaux. Pour donner un exemple, un composé aussi simple que le méthylisonitrile présente un spectre azote 14 fin, avec 4 raies comme on s'y attend, parce que l'azote est couplé aux 3 protons du méthyle, et dans le spectre du proton, les 3 raies dues au couplage à l'azote. Ça indique immédiatement quelle est la structure électronique de cette molécule, parce que si on l'écrit de cette façon-là, l'azote est entouré en quelque sorte pas de 4 carbones, mais il porte une charge positive et il a 3 liaisons à un carbone, une autre liaison à l'autre carbone. L'autre façon de l'écrire, c'est celle-ci, qui a un doublet sur l'azote et qui a un doublet sur le carbone. Mais cet azote est très dissymétrique maintenant parce que dans ces 4 directions de l'espace qui l'entourent, il y en a une qui est liée au carbone, 2 autres au carbone, mais la troisième porte un doublet libre qui introduit un gradient de champ très important. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de calcul. Ben, évidemment, si on fait un calcul, on trouve de façon plus précise de ce dont il s'agit. Mais il suffit de regarder le spectre pour savoir que c'est ça et pas ça. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ce genre que l'on pourrait utiliser pour illustrer le fait que l'azote 14 est très important. Par exemple, celui-là est un des plus surprenant, et le spectre, d'ailleurs, sa qualité, et je voulais le montrer aussi pour cette raison, c'est un spectre qui a été fait pratiquement à bas champ sur une des machines de variants à l'époque où vous travaillez à 30 ou 40 MHz, sans stabilisation de courant, ni rien. Vous voyez, la nitrodiéthylamine, on a un azote portant un doublet et un azote qui n'en porte plus. Alors, très grossièrement et très rapidement, du moment qu'il n'y a pas de doublet sur l'azote, c'est à peu près symétrique. Quand il y a un doublet, ce n'est pas symétrique. Et vous voyez la différence ? Cette raie a une finesse d'environ 10 Hz et l'autre en a 1000. Donc, c'est clair, on peut immédiatement savoir que cette molécule a cette structure électronique et non pas une autre que l'on pourrait écrire. Donc la distribution électronique indique tout de suite la largeur des signaux indique tout de suite la distribution électronique. Je montre simplement un mélange de différents solvants, le nitrométhane, la pyridine, l'acétonitrile, et rien qu'à la taille, à la largeur à mi-hauteur des signaux, on a une bonne idée sur la structure électronique des molécules en question. Ici, comme référence, un cas tout à fait symétrique, tétraméthylammonium, où l'arrêt est tout à fait fine. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ces propriétés de l'azote 14. Un autre petit exemple pour les chimistes. Quand vous avez un site comme un azote, les angles sont des angles tétraédriques, mais vous pouvez les coincer, vous pouvez introduire des tensions. Que donnent les tensions sur la distribution autour des sites en question ? Pour un cycle à 6 et pour ces grands cycles, c'est à peu près symétrique. Donc les raies sont très fines. Bon, je ne rentre pas sur les détails. Là, on a pu déterminer les constantes de couplage quadrupolaire qui dépendent du gradient de champ. Mais dès que vous commencez à tordre et à introduire l'azote dans un cycle à 3 ou 7 angles ici est beaucoup plus petit que les deux autres, dans ce cas-là, vous avez une constante beaucoup plus forte. Et là, encore une fois, la simple observation des signaux de résonance d'azote 14 vous permet de tirer des conclusions sur la modification des distributions électroniques introduite par une tension sur les angles. Dernier exemple, lorsqu'on prend deux charges et qu'on les rapproche, chacune influence l'autre, créant une dissymétrie électrique. Si les deux charges sont très lointaines, celles ne se sentent pas beaucoup, et quand donc dans ces objets-là, avec deux charges positives, deux azotes plus situées au bout d'une chaîne, ayant n carbone, donc une chaîne de plus en plus longue, quand elle est très longue, on a à peu près la même chose que tétrethylammonium que j'ai montré auparavant. Par contre, dès que vous rapprochez les sites, vous voyez que le couplage disparaît de là à là, et le résultat est qu'on peut, à partir de là, calculer la dissymétrie introduite au niveau d'un noyau par la présence d'une charge à une certaine distance. Mais dans cette formule, il y a un autre terme, qui est le terme qui a été aussi déjà mis en valeur auparavant, qui est, il y a bien sûr ce temps toujours, mais il y a aussi la fonction qui détruit les mouvements, qui décrit les mouvements. Et cette fonction qui décrit les mouvements peut être étudiée, les mouvements moléculaires peuvent être étudiés par mesure des temps de relaxation quadrupolaire. Là, nous étions intéressés à des molécules beaucoup plus petites que les protéines. Il ne s'agit pas de protéines, mais il y avait quand même un problème intéressant. Les liquides, c'est quelque chose de nettement plus compliqué que les solides. Les solides, on peut les voir, ils sont arrêtés, ils ne bougent pas. Les liquides posent des problèmes très intéressants. Et par exemple, les molécules planes, aussi simples que le benzène ou la pyridine, elles peuvent faire celles-ci. Elles peuvent soit tourner comme ceci, soit comme ceci, soit comme ceci, suivant les trois axes. Et quand on analyse la façon, quand on regarde le tenseur de mouvement suivant les trois axes, les noyaux qui sont situés sur les axes vont bien sûr dépendre différemment des mouvements autour de ces axes. Donc on peut essayer d'analyser les mouvements d'une part à une température donnée et d'autre part la façon dont ils changent avec la température. Et c'est spécialement intéressant pour des molécules planes de ce genre pour la raison suivante. Bon, d'abord, je reprends, la pyridine, elle fond à moins 41, elle boue à 115, c'est important, cette question d'ébullition. On peut donc étudier la façon dont les constantes de diffusion rotationnelle, bon, c'est le terme utilisé, la façon dont ces fonctions des mouvements moléculaires varient avec la température, on peut les étudier en déterminant les temps de relaxation en fonction de la température. Ce qui se passe, suivant les trois axes, donc on peut mesurer les temps de relaxation suivant les trois axes en fonction de la température. Et on observe que à basse température, ces molécules se comportent comme si elles étaient à peu près dans le solide. Qu'est-ce qui se passe dans le solide ? Dans le solide, la molécule est entourée des autres. Et elle peut tourner autour de l'axe 6 assez facilement puisqu'elle ne bouge personne. Donc elle tourne autour de l'axe d'ordre 6. C'est donc ça qui est le plus rapide. Par contre, à partir du moment où vous chauffez, ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, donc le rapport des forces inertielles et aux forces de viscosité, au fur et à mesure que vous passez vers la phase gazeuse, dans le gaz, c'est évidemment les forces inertielles qui contrôlent. Or, et c'est là qu'il y a un problème très intéressant dans ce cas-là, dans la forme gazeuse, les forces inertielles sont l'inverse, les vitesses de rotation sont l'inverse de ce qu'il y a dans le solide. Comme j'ai dit, dans le solide, cette rotation est facile. Dans le gaz, c'est les autres qui sont plus faciles. Pourquoi ? Parce que dans le gaz, tourner autour de l'axe, ça met en route tous les atomes. Tourner autour des autres axes, ça en met en route que 4. Et donc, on peut voir de cette façon-là que l'on passe, en allant de la phase liquide à la phase gazeuse, on inverse la façon dont les molécules bougent, et ceci est en soi quelque chose qui est intéressant dans l'étude des mouvements moléculaires dans les liquides. Donc on a un mouvement anisotrope, en bas, il ensuite devient isotrope, puis de nouveau anisotrope. On passe donc d'un comportement de solide, donc dans un milieu visqueux, et ensuite à un mouvement qui est inertiel, lorsque la température augmente. comme je l'ai expliqué, donc c'est les mouvements autour de l'axe C qui sont les plus faciles dans le solide et qui deviennent les plus difficiles dans le gaz. Ceci peut s'étudier sur toutes les molécules du type très symétrique, notamment la pyridine, la triazine, le benzène, donc ces trois molécules montrées là, et qui indiqueront que cet axe, dans tous les trois cas, les rotations, c'est là, sont les plus faciles dans le liquide, les plus rapides dans le gaz, gouvernées, donc déterminées par les forces d'inertie, par les inerties, et les mouvements sont bien sûr anisotropes. C'est la même chose. Le benzène, c'est le plus anisotrope, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de... Tous les atomes sont identiques dans le cycle. Un truc qui était très intéressant, qui nous avait beaucoup surpris à l'époque, un liquide aussi simple que la quinoline, dont tout chimiste se dit, bon, c'est un liquide, c'est homogène, ça devrait être homogène entre son point de fusion, qui est à moins 15, et son point d'ébullition, qui est à 109 degrés. Or, quand on étudie de nouveau les mouvements moléculaires sur la base des temps de relaxation, on trouve qu'il y a, vers 25 degrés, un changement de pente. Alors, c'était un cas assez intéressant. Et notamment, on peut aussi l'étendre en mesurant la capacité calorifique, où il y a aussi un changement de pente. Alors, a priori, ça semble complètement aberrant, et on n'a pas osé le publier à l'époque. C'était dans une thèse de troisième cycle en 1972, parce qu'on s'était dit, bon, ben, nos mesures de RMN sont faites avec des appareils qui sont ce qu'ils sont. C'était des appareils qui n'étaient pas des appareils de physiciens, dirions-nous. Et on ne l'a pas publié, jusqu'au moment où les gens de Grenoble ont repris les études sur la quinoline et ont confirmé le fait qu'effectivement, il y a une discontinuité des propriétés physiques de ce qui apparaît comme un vrai liquide, et que cette discontinuité peut être due à la formation d'agrégats locaux dans ce qui paraît être un liquide. Il y a d'autres molécules maintenant dont on a trouvé que dont le comportement est semblable. Et je crois que l'étude des liquides, qui est, comme je l'ai dit, quelque chose qui sont des systèmes, beaucoup de comportements beaucoup plus compliqués que les solides, cette étude mérite d'être poursuivie. Il y a un certain nombre d'autres molécules qui ont ce comportement, qui présentent des discontinuités dans leur mouvement, qui ne sont pas visibles, qui ne se reflètent que sur certaines propriétés, comme par exemple la chaleur spécifique ou les mouvements moléculaires. Alors bon, on va analyser plus en détail, on peut voir quels sont les mouvements qui accélèrent, qu'est-ce qui est les mouvements qui sont inhibés, pourquoi il y a le changement de pente, etc. Mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a pas mal de physiciens qui ont travaillé là-dessus, il y a notamment un groupe russe qui a beaucoup travaillé dessus, et d'autres groupes se sont intéressés à ces molécules qui ont un comportement anormal en phase liquide, et qui n'est pas visible autrement. Alors, la détermination de ces constantes de couplage produit polaire peut aussi se faire pour le deutérium, qui évidemment remplace l'hydrogène facilement, et qui permet d'introduire dans une molécule une espèce de sonde qui vous donne des renseignements sur le mouvement local. Alors évidemment, on peut dire qu'avec les méthodes modernes, on peut aussi mesurer le temps de relaxation des H. C'est vrai, mais c'est un temps qui est moins pur, c'est-à-dire que la relaxation d'un hydrogène est moins pur du point de vue de l'origine de cette relaxation, alors que pour le deutérium, pour un mouvement quadrupolaire, c'est nécessairement l'interaction quadrupolaire qui domine. Et donc, avec les moyens du Bohr à l'époque, utilisant la 60, comme il n'y avait pas moyen de regarder le deutérium, à l'époque, ce n'était pas possible, on s'était dit, ben, on va faire des choses indirectes en regardant l'hydrogène qui est couplé au deutérium et qui a donc une forme de raie donnée, d'un triplet jusqu'à des raies où les triplets commencent à disparaître. Et en analysant la forme de raie, on obtient des renseignements sur le couplage, sur la relaxation quadrupolaire du deutérium, ce qui vous donne des renseignements sur le mouvement de la molécule. Et ceci avait conduit à l'époque, quand Christian Brevard faisait sa thèse, à déterminer le temps de relaxation de ce deutérium comme étant 168 millisecondes. Alors on s'est dit quand même,
Bon, l'analyse de la forme de Rey, c'est une théorie physique bien établie, donc ça devrait être correct, mais il faut mieux contrôler. Et en 2010, la manip a été refaite directement sur le deutérium cette fois-ci. On trouve 170 contre 168. C'est un peu trop bon, d'ailleurs. Je pense entre 168 et 170. Bon, c'est dans la limite des erreurs d'expérience. Donc, en fait, on a, d'une part, on était content parce que ce qu'on avait raconté un certain nombre d'années auparavant, 30 ans avant, était correct, mais aussi parce que cela montre que les analyses de forme de raie permettent d'atteindre des propriétés de mouvement à partir, de façon indirecte, à partir de H qui est couplé au D. D'ailleurs, un peu, c'est un peu semblable à ce qu'on fait aussi quand, dans les techniques décrites Kurt-Buttrich, quand on utilise un hydrogène, par exemple, pour regarder d'autres noyaux qui sont en abondance naturelle beaucoup plus faibles que le proton lui-même et qui donc rendent beaucoup plus intéressantes aussi les études, beaucoup plus puissantes, les études de résonance magnétique nucléaire. On peut faire du marquage dynamique de cette façon. Je vous donne un exemple très simple ici, juste pour l'illustrer. Une molécule donnée qui a un cœur rigide et qui a des chaînes flexibles. Là, il y a juste une chaîne très simple, hein, juste un carbone, un groupe méthyle accroché sur ce noyau fluorinique au milieu. On peut marquer le centre, on peut marquer les locales, et ensuite, à partir de ces deux temps de relaxation, déterminer les temps de corrélation, donc les mouvements, et déterminer donc la façon dont ce groupe méthyle tourne par rapport à cette molécule, ou quand c'est un groupe avec un alcool, un OH, ou un acétyl, ou différents groupements. Et évidemment, ceci peut se faire le long d'une chaîne. Donc vous pouvez étudier le long d'une chaîne comment varient les mouvements et comment bougent les molécules le long d'une chaîne. Et c'est particulièrement intéressant, mais sans entrer dans les détails, quand la molécule ensuite se fixe, par exemple, sur un récepteur, vous pouvez trouver quels sont les bouts de la molécule qui sont mieux fixés que d'autres, celles qui bougent, celles qui ne bougent pas. Et notamment pour les petites molécules se fixant à des récepteurs biologiques, on peut déterminer quelles sont, par la dynamique, on peut déterminer quels sont les bouts qui sont fixés fortement et les autres qui ne le sont pas. Ce qui permet peut-être d'améliorer aussi la façon dont la reconnaissance entre les deux objets se fait. Alors une utilisation intéressante était la suivante. En chimie des petites molécules, il se fait souvent des complexes entre les deux, c'est-à-dire un objet A se lie à un objet B et reste ensemble un certain temps, puis il repart, et puis revient, il repart, et il revient. Et évidemment, le pourcentage aussi des deux espèces dépend de la constante de stabilité, donc il passe un certain temps dans l'état complexé, un certain temps dans l'état libre. Et ceci peut se faire très facilement lorsque la durée pendant laquelle cette espèce associée existe est suffisamment longue, mais quand elle ne l'est pas, il est très difficile, il n'est pas facile, disons, de déterminer quelles sont les vitesses auxquelles cette association et la dissociation se font. D'ailleurs, dans ce domaine, par exemple, des gens comme Manfred Eigen avaient déterminé, par des méthodes de saut de température, des sauts de pression, des choses de ce genre-là, avaient étendu les possibilités de mesurer les vitesses, les cinétiques chimiques dans des domaines qui n'étaient pas accessibles auparavant. Je redis donc, quand c'est très lent, c'est facile, on voit cet objet, on voit ces objets séparément. Entre les deux, on peut faire de ce qu'on appelle stop flow, enfin différentes techniques qui existent, qui vont jusque vers les millisecondes, oui, millisecondes, un peu plus court encore. Et au-delà, il faut utiliser des méthodes de saut de température, des sauts de pression qui permettent d'aller plus loin. Mais alors là, on peut faire une chose qui est spécifique à la résonance magnétique parce qu'on peut se dire la chose suivante. Quand la molécule, celle-ci, par exemple, on va prendre celle-ci comme exemple, quand cette molécule est libre, elle bouge d'une certaine façon. Quand elle est liée à l'autre, le temps va changer, la rotation, le temps de tourner va changer. Mais entre les deux, donc on a un moment où les mouvements moléculaires, dans ce cas-là, c'est 94 fois par nanoseconde, la rotation. Et lorsque la molécule est dans le complexe, dont on peut déterminer indépendamment la stabilité. Là, il se trouve que c'est un complexe très faible en stabilité. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que les complexes très faibles ne restent pas longtemps dans l'état complexé. Donc, ils font ceci très rapidement. Mais il faut avoir une horloge interne pour pouvoir mesurer ce mouvement. Et cette horloge interne est bien disons, les mouvements sont beaucoup plus rapides que celles qui étaient déterminées par Manfred Eigen avec les méthodes de saut de température. Alors, ce que l'on peut faire, on peut utiliser, et là je passe sur les détails parce qu'il faut analyser les équations en question, ce qui avait été fait, donc on avait fait ça en 1970, ce n'était pas hier, mais on peut utiliser comme temps caractéristique le temps de rotation, voyez, le temps de rotation dans le complexe pour déterminer la vitesse de dissociation. Et ces deux-là, bon, il se trouve que c'est à peu près semblable, c'est-à-dire qu'en gros, les espèces s'associent, font un tour et se dissocient. Donc c'est une façon d'avoir une horloge interne, et cette horloge interne est le temps de mouvement, le temps de corrélation de l'ensemble moléculaire, ce qui ne peut pas être atteint par d'autres méthodes, une espèce d'une horloge interne pour la vitesse d'association, et, enfin pour celle qui est la plus rapide, la vitesse d'association et dissociation, ici comme la constante de stabilité 1, elles sont égales, car AKD, association, dissociation, sont les mêmes. On peut appliquer la même chose à la formation de complexes supramoléculaires, juste un exemple. Une molécule bien connue des chimistes, c'est la cyclodextrine, c'est une molécule qui a une forme conique de cette façon-là, avec une cavité centrale, et dans cette cavité centrale peuvent s'inclure différents substrats qui rentrent là-dedans et qui sont donc qui passent un certain temps à l'intérieur de la cavité. Dans ce cas-là, comme la constante de stabilité est beaucoup plus grande, ça veut dire que en gros, elle passe 200 fois plus de temps à l'intérieur que dehors, donc c'est comme si c'était deux objets séparés. On peut alors fabriquer donc ce complexe en solution et regarder quels sont les mouvements moléculaires des objets séparés et des mouvements dans l'entité supramoléculaire elle-même, ce qui permet de montrer et de trouver que le substrat se réoriente environ 5-6 fois plus vite que l'ensemble. C'est-à-dire la molécule dans le trou tourne 5-6 fois pendant que l'ensemble bouge. Et ce genre de données aussi peut être très intéressante pour l'étude de la complexation de petites molécules par des molécules plus grosses. Et en principe, ça peut s'étendre aussi par des complexations entre des petits substrats et des molécules biologiques. Mais évidemment, ce que je vous ai montré, ça a tout été fait avec la 60, l'appareil vraiment qui était à l'époque le plus simple. Et c'est pour ça qu'on a dû faire de la gymnastique de cette façon-là pour essayer d'analyser les protons, la forme de raie des protons, pour savoir quelque chose sur l'autre noyau. Ce qui d'ailleurs, est un peu rejoint par cette façon d'utiliser les protons pour détecter les noyaux qui ont une faible abondance naturelle, comme l'azote 15, par exemple. L'azote 15, il y en a très peu, donc on utilise cette manière indirecte. Alors, par rapport à ces fameux A60 qui a fait le bonheur de la chimie organique pendant longtemps et qui est vraiment, c'était une révolution, j'ai déjà dit, mais je réinsiste là-dessus, à l'époque, ça a rendu possible des choses qui étaient totalement impossibles auparavant ou qui auraient pris beaucoup, beaucoup plus de temps avec moins de certitude, parce qu'en plus, les fameuses techniques de diffraction des rayons X qui vous donnent les structures en phase solide étaient beaucoup moins développées. Maintenant, quand il y a une thèse de chimie organique, bon, il y a facilement 20 structures rayons X. À l'époque, quand il y en avait 2 ou 3 dans une thèse, ça faisait une thèse. Et maintenant, c'est juste un apport comme un point de fusion ou un point d'ébullition. Alors, la résonance magnétique, donc, s'est beaucoup développée grâce à l'instrumentation. Et là, il faut bien dire, il faut aussi rendre hommage aux ingénieurs. Les ingénieurs qui ont fait le boulot de développer les appareils. Parce que c'est bien beau d'avoir une théorie physique, et c'est vrai, la théorie physique, c'est la base. Mais s'il n'y a pas un ensemble d'ingénieurs de tous les domaines qui se mettent à travailler sur l'optimisation, vous n'avez rien. Ou disons, vous n'allez pas très loin. Donc je crois que j'aimerais bien rendre hommage à tous les ingénieurs qui ont développé des belles machines qui nous permettent de faire ce que nous faisons, qui évidemment utilisent les principes de la physique. On rend hommage à la physique, mais il faut la mettre en œuvre, il faut faire des appareils, il faut optimiser chaque petit paramètre, un petit bout par là, un petit bout par là, pour aboutir à ce que nous savons faire maintenant. Donc voilà un spectromètre à 100 MHz, qui était déjà un net progrès, et puis le gros, là, un électroaimant d'environ 4 tonnes, c'est un truc comme ça que nous avions, avec un tuyau comme ça pour le refroidir, pour faire passer l'eau. C'était un bel appareil. D'ailleurs, quand j'avais travaillé chez John Polder, je suis là pendant que je faisais aussi sur la synthèse de la B12, je faisais un peu des mesures d'azote 14 chez lui sur un appareil qui était de la génération d'avant, où c'était vraiment un peu de la gymnastique. Pour régler la position du signal, il fallait tourner le bouton du champ magnétique. Le signal passait par l'oscilloscope dans un sens, on tournait dans l'autre sens, passait dans l'autre sens. Pour stabiliser le tout, c'était de la gymnastique. Ça, c'est déjà des machines qui sont bien plus avancées et qui ont permis beaucoup d'études. Mais la grande différence est venue quand on a passé aux aimants supraconducteurs et à la transformée de Fourier. Là, l'école de Zurich, évidemment, la transformée de Fourier, et puis les aimants, la supraconduction, qui a été déjà mentionnée ce matin, et les aimants correspondants. Et là, encore une fois aussi, c'est tout un ensemble où les ingénieurs ont une importance fantastique. Il faut faire, évidemment, il faut découvrir la supraconduction, mais ensuite, il faut faire des fils pour. Il faut pouvoir les bobiner. C'est pas simple. Il faut faire les aimants, il faut qu'ils soient stables, et tout un ensemble de choses qui, lentement, ont progressé et qui, maintenant, aboutissent à des machines qui ont des performances fantastiques. Et, par exemple, même le gigahertz, bon, ça, c'est un peu... Bon, c'est le sommet de la colline, mais le sommet de la montagne, ou de l'Himalaya, je dirais même. Bon, on peut se dire qu'entre 900 mégas, peut-être que Kurt ne serait pas d'accord, bon, il est peut-être quand même, entre 900 mégahertz, 800 mégahertz et 1 giga, les prix s'envolent. Et avec 1 giga, on peut probablement acheter 800 mégas, ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on peut se poser la question de savoir si la course au champ haut, au champ est toujours justifiée. Bon, ça viendra. Peut-être qu'un jour, on trouvera des façons de fabriquer ces machines pour des coûts beaucoup moins élevés. Mais ce qui est important, c'est le cheval de bataille, là, c'est celui-ci. C'est le 400 mégas dans ces domaines-là, et qui, maintenant, dans les laboratoires de chimie organique, est la machine qui est utilisée partout et qui a, là encore une fois, complètement changé la vie des organiciens en leur donnant un appareil qui permet de déterminer les structures de molécules plus ou moins complexes de façon rapide, de façon fiable. Et je crois que c'était là, encore une fois, une avancée très, très importante pour nous et pour un peu comme... la progression, évidemment, des déterminations de rayons X aussi. Je voudrais juste faire puisqu'on a parlé de ces nouvelles machines, donner quelques indications sur ce qui a déjà été mentionné, la spectroscopie qui est liée aussi à la diffusion moléculaire. On fait alors dans un champ qui n'est pas un champ, qui a un gradient de champ magnétique, et on lie alors les signaux de résonance magnétique à la diffusion des molécules dans le liquide. Où dans la formule intervient donc aussi la viscosité, mais l'important, c'est le rayon hydrodynamique qui fait que les molécules bougent plus ou moins vite dans le champ. Et je vous donne juste un exemple qui est assez illustratif. On a, il y a un certain nombre d'années maintenant, fabriqué des doubles hélices artificielles à partir de molécules linéaires de ce genre, liées deux brins par des ions métalliques pour faire une double hélice. Ça, c'est une structure rayons X. C'est pas simplement une belle image, c'est une vraie structure rayons X. Donc ça a été fait, et on peut les faire aussi avec 2, 3, 4, 5 sites. Maintenant, ça, on le fait séparément, chaque objet séparé. Mais ensuite, on peut les mélanger pour voir ce que ça donne. Et quand on les mélange, on obtient un spectre très compliqué, évidemment, où tous les spectres, tous les objets se séparent, se superposent. Mais si vous faites ça dans des conditions où vous pouvez observer la diffusion des molécules est différente, donc par des méthodes d'OSI, vous pouvez séparer les différents spectres du système à 2, 3, 4, 5, et séparément, vous pouvez voir chaque objet. Ce qui est très important pour la chimie qui se développe, c'est qu'évidemment, les systèmes complexes sont des systèmes de mélange. Et si vous voulez analyser un mélange, il faut pouvoir voir quels sont les objets dans le mélange. Et de cette façon-là, c'est une des méthodes, mais une méthode très importante, où vous pouvez in situ, sans rien perturber, voir quelles sont les différentes molécules en présence par le fait qu'elles diffusent à des vitesses plus ou moins grandes. La même chose est valable pour ce genre d'objet, je vous donne juste cet exemple encore, où, comme vous pouvez vous y attendre, en mélangeant ces objets-là, donc de plus en plus, c'était ceci, hein, des complexes métalliques de ce type, qu'on appelle un peu en râtelier, rack, où les molécules sont liées les unes aux autres, et vous voyez que la constante de diffusion la diminue en vitesse, mais ça permet de séparer, d'avoir indépendamment le spectre de chaque espèce en solution, ce qui est très important pour les systèmes dits complexes. Finalement, on peut observer la façon dont les molécules marchent les unes sur les autres. Vous savez sans doute qu'il y a des molécules moteurs dans les systèmes biologiques, dont la kinésine et la diénine, où une molécule, la kinésine par exemple, marche sur un microtubule de la tubuline, et ce faisant, les deux bouts, les deux du pied, en quelque sorte, les deux jambes de la kinésine font des pas, l'une des molécules sur l'autre. Évidemment, ça se passe sur des protéines, et là, ces microtubules, c'est des associations de protéines qui donnent le parcours sur lequel marche l'autre molécule. Et ceci, ça se fait chaque fois que je remue mes bras, c'est les molécules qui me permettent de remuer les bras font ce genre de pas les unes sur les autres, très vite. Est-ce qu'on peut faire cette même chose dans des systèmes artificiels qu'on peut contrôler et qu'on peut éventuellement ensuite utiliser pour créer des mouvements moléculaires sur des surfaces, en nanotechnologie, etc. Alors, il y a tout un ensemble de recherches qui sont développées dans ce domaine où on essaye, de façon synthétique, donc artificielle, de faire des systèmes purement, disons, enfin, toutes les molécules biologiques sont chimiques aussi, mais enfin, des systèmes qui ne sont pas des systèmes trouvés dans les organismes vivants. Est-ce qu'on peut faire, là aussi, créer des systèmes où les molécules se déplacent les unes par rapport aux autres et où l'on peut contrôler ce mouvement ? Bon, il y a beaucoup de labos là qui s'intéressent à cela, mais je voulais juste vous donner un exemple extrêmement simple, et d'ailleurs je dirais même simpliste. C'est lié aussi aux études que nous faisons actuellement sur ce qu'on appelle la chimie dynamique, et qui est dans un sens, c'est trivial, et c'est surprenant que ça n'ait pas été fait avant. Si vous condensez un groupe amine avec un carbonyl, vous obtenez une imène. Jusque-là, ça c'est totalement classique, c'est dans tous les cours, etc. Vous pouvez donc, du fait de cette dissociation, échanger l'un ou l'autre des bouts. Donc, vous pouvez échanger ces imines, le bout A ou le bout X. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez, par exemple, un groupe carbonyl en rouge et une autre molécule ayant deux groupes amines, est-ce que ce groupe rouge ne peut pas marcher d'un côté à l'autre ? Effectivement, c'est ce qui se passe. Si l'on prend une diamine, donc une chaîne ou un système, un espaceur, un système moléculaire, une unité moléculaire, avec deux groupes NH2 en bleu, et si vous avez par ailleurs une molécule qui peut faire une imine d'un côté, elle peut ensuite faire un pas et aller de l'autre côté. Et donc, on a une dynamique de mouvement d'un côté à l'autre. Évidemment, on peut aussi échanger ce bout-là, quand il se détache, contre un autre, et donc là, on a donc un changement de constitution de l'objet chimique. C'est une dynamique constitutionnelle et non pas une dynamique de mouvement. Et ceci peut à nouveau aussi alors conduire aux molécules marchant l'une sur l'autre. Les cas en question, ça peut être simplement quelque chose d'aussi trivial que l'aldéhyde salicylique et avec une diamine ou alors donc l'éthylène diamine ou la propylène diamine. Ceci vous illustre comment c'est visible par résonance magnétique nucléaire. Si vous refroidissez, les spectres sont larges parce que, évidemment, les mouvements sont encore intermédiaires. Si les mouvements étaient très lents, ce serait très fin ici, ou très rapide, ce serait très fin à haute température. Mais en changeant la température, la forme de raie change, et ces deux signaux sont les signaux qui sont dus au CH2 d'un côté, ce CH2 de l'autre. Donc, quand ce groupe s'échange d'un bout à l'autre, au fur et à mesure que la vitesse d'échange augmente, les pics coalescent, comme on dit, pour donner un seul pic, et à partir de la forme de raie, vous donc pouvez étudier la vitesse à laquelle ça se passe. Évidemment, ça peut s'étendre à des amines beaucoup plus compliquées, et donc vous pouvez avoir des cycles où une molécule marche sur l'autre et tourne autour de l'autre, par exemple, comme indiqué ici, où vous pouvez aller d'un côté à l'autre. Évidemment, l'une des questions encore est-ce qu'on peut rendre ça directionnel ? Parce que ça, c'est évidemment statistique, et ce n'était pas avant, pas hier, mais on peut le rendre directionnel par différentes façons de modifier, mais je ne vais pas entrer dans les détails. On peut pousser, on peut forcer un groupe à aller de l'autre côté, et puis en changeant les conditions, revenir en arrière. Voilà, donc, j'ai illustré quelques petites choses qui sont du domaine de la chimie et d'utilisation de la RMN en chimie, en physique, on en a beaucoup entendu parler, en chimie, et on a entendu parler de la biologie et de la médecine. Maintenant, nous savons, et nous avons eu l'exposé fantastique de M. Sirota sur le fait que tout ce qu'on peut faire maintenant en imagerie, du spectre à l'image, voilà le fameux neurospin, mais on l'a déjà vu, on n'avait pas prévu le coup, on ne s'était pas concerté. Mais voilà aussi notre bâtiment construit par le même architecte, Claude Vasconi. Je voulais quand même lui rendre hommage aussi, parce que c'est un excellent architecte, et il a fait ça, c'était vraiment une excellente, c'était fantastique de faire des bâtiments qui ressemblent en plus à une onde. Voilà, des principes aux applications. Et entre les deux, il y a bien sûr les principes, mais encore une fois, je voudrais dire que pour passer aux applications, il faut faire les machines. Et pour faire les machines, il faut beaucoup de personnes qui ont quelque chose entre les deux oreilles pour y arriver, et beaucoup de dextérité. Et donc, à la fois, rendre hommage aux principes, à ceux qui font les principes, qui posent les bases, mais aussi à ceux qui développent ensuite les outils. Merci.